Merci notre Père et notre Dieu, et ce au nom de celui qui est assis à ta droite, celui qui est notre avocat et notre défenseur, celui que tu as fait asseoir à ta droite au-dessus de toute souveraineté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute autorité, de toute principauté. Lui qui est non seulement notre avocat auprès de toi, notre défenseur auprès de toi, mais lui aussi qui est notre souverain sacrificateur, qui se tient devant toi en notre faveur. Père, c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que nous avons accès auprès du trône sur lequel tu es assis. Merci de nous avoir non seulement accueillis dans ta présence, mais aussi d'avoir accueilli favorablement nos prières, notre louange, notre adoration, nos sentiments de reconnaissance et de profonde gratitude. Père, merci pour tout. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans le sein des saints, demeurer, ô Dieu, devant ton trône et nous asseoir devant toi pour recevoir ta parole. Car c'est alors seulement que cette parole pourra avoir un impact sûr et immédiat sur notre vie. C'est alors que cette parole pourra accomplir l'œuvre pour laquelle elle sera sortie de la bouche de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, dépose sur nos cœurs ta parole. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons donc continuer avec notre thème, l'entrée du lieu secret. L'entrée dans ce palais céleste, dans ces lieux où notre Père siège en majesté. Et je peux vous assurer que c'est dans sa volonté que vous et moi nous apprenions à entrer régulièrement dans ces lieux secrets. C'est dans sa volonté, c'est d'ailleurs sa grande attente de voir ces enfants que nous sommes, de par notre présence en Christ, de par notre position en Christ, de nous voir nous approcher de lui avec confiance, avec assurance, et d'aller au-delà du voile pour entrer dans sa présence, être ainsi en contact avec lui, être complètement absorbé par cette atmosphère merveilleuse et qui règne dans son palais où tout s'écrit gloire, où des êtres célestes se prosternent à chaque instant pour proclamer sa majesté, pour proclamer sa gloire, pour l'adorer, pour le louer. Nous allons donc continuer avec ce message aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Que Dieu soit béni, alléluia. Nous allons relire notre passage de Matthieu 6, les 8 premiers versets. Matthieu 6, 1 à 8, nous lisons. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, ou amen, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes, pour être vus des hommes. En vérité ou amen, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. C'est seulement par après que le Seigneur, au verset 9, va enfin dire à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Ah. Tout cela est précédé par un préambule, qui est donc un préalable par lequel nous devons absolument passer, si nous voulons, mes amis, entrer véritablement dans sa présence et communier avec lui. Mes amis, je ne cesse de vous le dire, et la Bible est là pour nous le rappeler à chaque instant, que nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu, tous invités à entrer dans le lieu secret. C'est le seul lieu où nous recevons les grâces les plus merveilleuses. C'est le seul lieu où enfin nous pouvons accomplir pleinement, glorieusement, notre raison d'être ici-bas. Car c'est dans ce lieu seulement, ce lieu que nous appelons secret, qu'alors nous pouvons, mes amis, avoir un face-à-face avec celui qui est notre Père, avoir un cœur à cœur avec lui. Et croyez-moi, lui qui est notre Père, il est toujours disposé à nous recevoir, car c'est dans sa volonté, n'est-ce pas lui qui nous adresse cette invitation que nous trouvons dans sa parole, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Alléluia. S'il nous a sauvés, s'il nous a fait entrer dans sa famille, si désormais, de par notre position en Christ, nous sommes devenus ses enfants, c'est pour que, mes amis, nous arrivions à découvrir le bien fondé, la nécessité, l'importance d'aller au-delà du voile et d'entrer dans le lieu secret, dans le sein des saints célestes. Et tout cela dans le but de communier avec lui, dans le but de l'adorer, de le louer véritablement, lui qui est esprit. Le Seigneur dit que son Père est à la recherche de véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais pour que nous arrivions, mes amis, à l'adorer véritablement, pour que nous arrivions enfin à expérimenter c'est qu'est la prière qui est un dialogue avec notre Père, c'est qu'est la prière qui est ce moment particulier, qui est un privilège énorme. Il faut que nous apprenions, mes amis, à aller, à entrer dans le lieu secret, car il nous attend. À chaque moment, à chaque instant, nous pouvons aller et entrer, mes amis, dans ce lieu secret, car telle est sa grande attente par rapport à chacun de nous, nous qui sommes ses enfants qu'il a rachetés par le sacrifice suprême de son Fils Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais l'entrée du lieu secret, l'accès au palais céleste, dans lequel notre Dieu siège en majesté, l'entrée de ce lieu extraordinaire, de ce lieu qui est rempli de sa gloire, l'entrée de ce lieu dans lequel lui trône, environné d'une lumière inaccessible, l'entrée là, mes amis, pour que nous le contemplions, pour que nous l'adorions, cette entrée-là passe de manière inéluctable, de manière inexorable, assurément, passe indubitablement, mes amis, par l'antichambre du lieu secret, l'antichambre du palais céleste, cette antichambre qui est une sorte de salle d'attente. Quand vous devez aller voir l'autorité suprême du pays, vous ne débarquez pas comme ça, la main dans la poche, en sifflotant. Vous arrivez, dites, non, je dois le voir à tout moment parce que j'ai besoin de lui. On vous prendrait pour un malade mental. Et si vous insistez, on vous embarquerait, n'est-ce pas? Et même si vous avez reçu une invitation de sa part, vous devez respecter le protocole, oui ou non. Vous devez passer par la salle d'attente. Eh bien, il en est de même de notre Père. Il y a une salle d'attente, ce que nous appelons l'antichambre, le lieu où nous devons absolument passer. Et ce lieu-là repose, cette antichambre repose sur les 6 recommandations, sur les 6 règles dont il est question depuis déjà quelques dimanches. Ces 6 règles, ces 6 recommandations, ces 6 injonctions sont donc la base, le fondement sur lequel, l'antichambre repose. Pas de communion en aval, une communion vraie, une communion profonde avec notre Père, sans un passage au préalable par l'antichambre. Et depuis, nous avons commencé à examiner les différentes recommandations qui constituent le code d'accès au lieu secret. Nous avons eu à parler du premier code. Ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, dans le but de se montrer aux hommes, dans le but, eh bien, d'être vu par les hommes. Au contraire, en disant cela, le Seigneur voudrait, et ça c'est la première recommandation, que nous soyons authentiques dans notre approche de lui. Que nous soyons discrets, que nous ne prions pas pour être vus, afin que les gens puissent avoir une certaine image spirituelle de nous. Ce qui est vrai pour la prière, c'est-à-dire qui doit être faite sans vouloir être vue, qui doit être faite de manière authentique en se débarrassant de tout masque. Ce qui est vrai donc pour la prière est aussi vrai pour tout ce qui concerne le service envers Dieu. Que ce soit la prédication. Nous ne devons pas prêcher pour impressionner. Nous ne devons pas prêcher, mes amis, pour attirer le regard des gens sur nous. Dès lors que nous cherchons à attirer le regard des gens, eh bien, nous nous privons du seul regard dont nous avons besoin, le regard de notre Père. Combien de gens aujourd'hui, dans ce monde numérique, des gens qui sont à la recherche d'être approuvés par tout le monde, d'être reconnus par tout le monde comme étant les plus grands prédicateurs, les hommes ou les femmes les plus spirituels, les prophètes des nations, ou les ceci ou les cela, eh bien, ils n'hésitent pas, même dans leur moment d'intimité, de se faire des selfies pour les publier sur les réseaux sociaux. Vous le faites pour qu'on voit, qu'on sache ce que vous faites, ou alors vous le faites pour Dieu. Le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, nous passons à côté des temps de grâce et des temps de bénédiction. Car nous voulons nous mettre en évidence, nous voulons nous mettre en scène. À chaque fois que nous devons faire quelque chose pour le Seigneur et avec le Seigneur, eh bien nous claironnons, nous sonnons de la trompette. Nous voulons que le monde entier sache que quand nous avons prié, quelqu'un est tombé. Nous voulons que tout le monde sache que quand nous nous prêchons, et même la salle tremble. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui une génération d'hommes et de femmes qui ont des masques, voyez-vous, qui ne sont pas vrais. Voyez, car à force de vouloir se faire remarquer par les autres, ils finiront par développer une certaine image de vous. Hypocrite, ne soyez pas comme les hypocrites, nous dit le Seigneur. Le terme grec hypocrites, d'où vient d'ailleurs hypocrite en français, évoquait à l'origine les acteurs de théâtre qui montaient sur la scène avec des masques. C'était justement pour amuser la comédie, n'est-ce pas? Donc, ils mettaient des masques pour jouer. Ils mettaient des masques quand ils montaient sur la scène et quand ils se produisaient. Ça vient de là. Et puis ensuite, ce mot en est venu à s'appliquer sur le plan moral à toutes sortes de faux semblants. Voyez-vous, on en voit certaines images à partir de son comportement extérieur, mais des images, des informations qui sont tout le contraire de ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça être hypocrite, n'est-ce pas? Des faux semblants. Et sur le plan religieux, eh bien l'hypocrisie ou les hypocrites, ce sont ceux qui ont une conduite qui est là pour tromper. Voyez-vous, envoyer un certain signal que moi aussi je suis spirituel, que moi aussi je peux prêcher, moi aussi je peux proclamer, enseigner. Enfin bref, c'est ça l'hypocrisie. Et le Seigneur dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Et par rapport à ça, on a développé deux points importants avant d'aborder l'autre recommandation la deuxième, c'est-à-dire entre dans ta chambre, deux points importants qu'on a développés. Si nous voulons, nous ne voulons pas être discrets, et plutôt, nous ne voulons pas être hypocrites, soyons alors discrets. Ne donnons pas l'occasion aux uns aux autres, mes amis, de nous regarder, et puis de développer une certaine image, et puis de se faire une opinion qui ne reflète pas la réalité intérieure de notre vie. Et pour cela, derrière cette attitude extérieure d'authenticité, d'être vrai, eh bien, il y a une attitude ou des attitudes intérieures de simplicité, d'humilité, alléluia. Quand on est humble, mes amis, on ne cherche pas à se mettre en valeur. On ne cherche pas à s'exhiber. On ne cherche pas à attirer le regard des autres sur nous. Pourquoi le ferions-nous? Car nous sommes conscients que tout ce que nous sommes, c'est à lui que nous le devons. Car nous sommes conscients que notre vie en réalité n'est pas ce que les gens pensent. Voyez-vous, pourquoi chercher à attirer le regard des autres? Et la deuxième chose, évidemment, par rapport à cette première recommandation, c'est que nous devons faire pour fuir le regard des autres. Car le regard des autres est incapable de voir notre cœur. Alléluia. Le regard des autres, mes amis, est impartial, n'est pas vrai. Soit le regard des autres nous sous-estime, oh, il ne vaut rien, celui-là. Elle ne vaut rien, celle-là. Ou alors, le regard des autres nous surestime. Vous voyez? Et donc, c'est soit être sous-estimé, soit surestimé. En cela, nous voyons que le regard de l'homme est trompeur. Alors, pourquoi solliciter le regard des autres? Pourquoi chercher à attirer le regard des autres sur toi, sur ta spiritualité, sur ce que tu es, alors qu'en réalité, c'est un faux semblant. C'est juste un masque que tu mets. Le regard des hommes est soit valorisant, soit dévalorisant. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous interpelle et nous demande de chercher le regard de notre Père. C'est le seul regard juste, car lui nous voit tel que nous sommes. C'est ce qu'il avait dit au prophète Samuel quand il avait fait venir, quand Isaïe, le père de David et de ses frères, quand le moment était arrivé de consacrer David, le prophète est arrivé, il a demandé à Isaïe de faire venir tous ses enfants. Il les a fait venir, mais il en manquait un, le tout petit, le fiston, qui gardait le petit bétail. Quand Samuel voit Eliab, il dit, oh là là, c'était un homme grand, qui respirait la prestance. Aujourd'hui, on aurait pu dire, oh là là, celui-là, c'est un vrai baobab. Il a regardé à son allure, il a regardé à sa démarche, marchant comme un... avec fierté. Voyez? Fier comme attends. Il regarde à tout ça et dit certainement, c'est lui que je suis venu, à qui je suis venu donner l'onction. C'est le prophète. Hein? Malgré, mes amis, le discernement qu'il avait, la proximité qu'il a fait avec Dieu, il s'est trompé dans son jugement. Le Seigneur lui dira non. L'homme regarde à ce qui est visible, aux apparences. Mais l'Éternel regarde au cœur. Cherchons le regard de Dieu. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième recommandation. Il y a eu la première, sois authentique, n'est-ce pas? Et discret, simple, humble. Ne prie pas pour être prêt. Et quand bien même tu serais quelque part en prière, eh bien, ne fais pas tout pour que tout le monde voit que toi tu pries où que tu sois. Deuxième recommandation, deuxième code d'accès. Entre dans ta chambre. Le Seigneur dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte, etc. entre dans ta chambre quand tu pries. Après cette la première recommandation de ne pas être vu des hommes, de ne pas prier pour se mettre en évidence ou se mettre en scène, c'est-à-dire cette première recommandation qui nous encourage, qui nous exhorte à être discrets, à fuir la vanité, car c'est la vanité que de vouloir attirer les regards des gens sur nous. Cette première recommandation qui nous invite à nous consacrer au seul regard du Père, Jésus nous invite à la deuxième, par une deuxième recommandation, à entrer dans la chambre. Alléluia. Dans notre chambre. Il t'invite, mon frère et ma sœur, à entrer dans la chambre. De quelle chambre est-il question? Question qui vaut son pesant d'or. De quelle chambre s'agit-il? S'agit-il de la chambre à coucher? Oui, ça peut l'être. S'agit-il de toute autre pièce? Nous allons le voir. Mais avant de passer en revue ou de regarder autour et alentour du terme grec utilisé dans les évangiles, donc Matthieu 6, verset 6, et qui a été traduit de mille et une façons, je me réfère une observation. Quand Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, devons-nous déduire de ce verset que Jésus s'opposerait à la prière en public? Non. Vous voyez, on peut tout de suite tirer la conclusion. Vous voyez, il a dit, hein? Si tu veux prier, tu fais quoi? Entre dans ta chambre. Et par conséquent, vous voyez, le Seigneur serait contre la prière en public. Ah non. Ça serait aller vite en besogne. Ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Eh bien, puisque lui-même, Jésus, a prié, a eu à prier aussi bien en public qu'en s'isolant. Par exemple, dans Matthieu 14, verset 19, lors de la multiplication de pains, à partir de 5 pains et de 2 poissons, la Bible nous dit qu'il a fait asseoir la foule sur l'herbe. Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a levé les yeux vers le ciel et a prononcé la prière de bénédiction. Alléluia. Il a prié. Là, nous sommes en public. Voyez-vous? Et donc, vous pouvez trouver d'autres textes qui mettent en évidence le fait que Jésus a eu à prier en public. C'est vrai. Donc, ça ne veut pas dire que le fait de demander d'entrer dans notre chambre, il serait contre ça, pas du tout. Oui, il a eu à prier, aussi bien en public qu'en s'isolant. Par exemple, Matthieu 14, verset 23, il nous est dit, après avoir envoyé les foules, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. Ah, loin de tout regard. Vous voyez? Et donc, que ce soit en public, que ce soit en privé, il y a moyen d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte. Entre dans la chambre. Dans la chambre. Eh bien, le terme traduit par chambre au verset 6 de Matthieu 6 est le terme grec tameion. Vous pouvez écrire tel que ça s'est dit, tameion. La version que j'utilise ici, Louis Segond, révisée, l'édition qu'on appelle dite à la colombe, la traduit par « Si tu veux prier, entre dans ta chambre ». Mais essayons de voir un tout petit peu comment les autres versions ont traduit ce mot, ce terme « tameion ». Prenons par exemple la transcription dynamique du Nouveau Testament d'Alfred Kuhn. Il a juste traduit le Nouveau Testament. Et Alfred Kuhn, dans sa traduction, nous dit ceci. « Va dans ta pièce la plus retirée. » Vous voyez déjà, hein? Voilà. Une chambre est une pièce, mais toutes les pièces ne sont pas... Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et là, il dit, « Va dans ta pièce la plus... » Tout ça, nous retrouvons le même principe. pour s'extraire au regard de son. La pièce la plus retirée. On retrouve de manière sous-jacente cette même vérité. Voilà. Va dans ta pièce la plus retirée. Gloire à Dieu. Verrouille ta porte et adresse ta prière. Verrouillez la porte. Ferrez la porte. Nous verrons ça. Une autre version, la tombe, la traduction œcuménique de la Bible nous dit ceci. Entre dans ta chambre la plus retirée. Donc nous retrouvons encore une fois cette notion de quelque chose, d'un endroit retiré. Voilà. Dans ta chambre la plus retirée. Traduction œcuménique de la Bible. La Bible hébreu français, je crois que c'est encore un texte protégé, nous dit ceci, entre dans la pièce la plus retirée. Voyez, retirée, retirée. La NBS, la nouvelle Bible second, et d'ailleurs la dernière version qui est sortie de second, nous dit, entre dans la pièce la plus retirée. Et enfin, Austin, voilà, la pièce la plus retirée, Austin nous dit, entre dans ta recette. Donc, la recette, c'était un local, une sorte de remise où on mettait des choses là-dedans, des choses pour être à l'abri de ceci ou de cela. C'était un lieu de provision, voyez, un endroit retiré. Ça pouvait être un cellier, c'est-à-dire un lieu où on a rangé, par exemple, le blé, les céréales, les provisions. Ça pouvait être un grenier. Voyez, vous connaissez le grenier, la partie de la ferme où on met, par exemple, on conserve les grains et le fourrage pour les bêtes. En d'autres mots, ce terme taméon veut dire une chambre de stockage. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est une chambre de stockage, ce n'est pas un living, oui ou non? Ce n'est pas un espace de vie normal. Voilà. Quand on doit y aller, ben on doit quitter le living, on doit quitter le salon, on doit quitter la maison proprement dite et aller entrer dans cet endroit. Encore une fois, nous voyons cette démarche de s'extirper, de s'extraire au regard des autres. C'est comme un entrepôt, un lieu de provision. On va chercher quelque chose. Voilà. On a gardé les grains, on a gardé tout là-dedans. On y va pour prendre. C'est une chambre aussi intérieure. Il y a des chambres qui sont là, mais elle est intérieure. Ça peut même être une pièce secrète, donc une pièce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà donc les différents sens de ce terme grec « taméion ». Donc nous voyons qu'il y a une idée sous-jacente à toutes ces traductions que nous venons de passer très rapidement en revue. C'est l'idée d'une pièce retirée, n'est-ce pas? C'est l'idée d'une chambre retirée. C'est l'idée d'un endroit retiré. Donc cela nous amène à dire, à la lumière de tout cela, que le taméion, la chambre, la pièce retirée, notre pièce retirée, dans laquelle nous devons entrer, peu importe où nous sommes, n'est-ce pas? Et donc, peut être un lieu quelconque, où que je sois, je peux entrer dans mon taméion, tout en étant au milieu de gens, à un moment je m'évade, comme je m'évade avec le Seigneur. Je suis là, mais en réalité je suis en prière, alléluia. Et pourtant je suis en public. Je suis coupé de mon environnement immédiat. Voilà. C'est comme les gens qui aiment beaucoup rêver. Hein. C'est un penchant que nous trouvons hein, de la nature humaine. Hein. Le penchant à la rêverie. Certains même, pendant que vous êtes là, vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train d'être ailleurs. Voilà. Même en voyage déjà. C'est un penchant.
Voyez.
Mais ici, au lieu de rêver ou de rêvasser, ici, on amorce en esprit une démarche vers le lieu secret. Alléluia. Donc, à cet instant où je me retire spirituellement, eh bien, ce lieu-là, que ce soit un local, une salle, que ce soit dans ma chambre, que ce soit un lieu en plein air, devient, par la grâce de Dieu, eh bien, l'endroit où j'entre dans la présence du Seigneur. Car Dieu est esprit. On entre dans sa présence en esprit et en... Donc, je peux entrer dans ma chambre, dans mon tameillon, où que je sois. Je suis là. Les gens peuvent dire, mais tiens, il est distrait. Hein. Au boulot, il dit, oh, lui, il rêve beaucoup. Peut-être qu'il est quelque part. Mais en réalité, tu es dans le Saint des Saints. Tu es en train de contempler ton Père. Fermons un peu les yeux. Mais non. Fermons les yeux et approchons-nous du Père. Il est là, assis sur son trône. Et nous pouvons lui parler. Seigneur, je t'aime. Merci de m'avoir prêté ta vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, je t'invoque ici, au travail. Et je te dis merci, car ce travail, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, je suis dans ma voiture. Je me dirige vers tel ou tel lieu. Mais je voudrais te louer. Je voudrais t'adorer. Alors que vous roulez. Alléluia. Vous l'avez fait, eh bien, vous voyez en cet instant, en esprit, vous êtes entré dans la présence du Seigneur. Entre dans ta chambre. Gloire à Dieu. Dieu est esprit et il faut le rencontrer spirituellement. Peu importe où nous sommes, nous pouvons entrer dans notre chambre. Alléluia. Et nous allons comprendre encore mieux en parlant de la troisième recommandation. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Donc, ces deux recommandations se suivent. C'est à la lumière de la troisième recommandation que nous pouvons vraiment comprendre la deuxième. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Mes amis, par cette injonction, le Seigneur nous fait remarquer qu'entrer en esprit dans le lieu secret nécessite la mise en place d'une barrière entre nous et notre environnement. C'est ça, fermer la porte. Je mets une barrière, tout en étant au milieu de gens. À un moment, eh bien, me voilà en esprit, entré dans la présence de Dieu. Mais je ne peux entrer véritablement dans sa présence que si je ferme la porte. Donc, ça nous parle de cette barrière que nous devons mettre en place entre nous et notre environnement. Pour mieux comprendre, mieux apprécier cette injonction, allons voir très rapidement ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Comment le souverain sacrificateur entrait à l'époque dans le tabernacle, puisque le peuple était en route vers la terre promise, donc on ne pouvait pas bâtir un bâtiment en plein désert. C'est comme ça qu'ils avaient les tabernacles, c'était une tente, la tente d'assignation, la tente des témoignages. Quand Israël, sous la conduite de Moïse, arrivait quelque part, la première des choses, on devait dresser le tabernacle, selon les instructions que le Seigneur avait données à Moïse. Et donc il y avait trois parties, vous aviez le parvis, là où il y avait l'autel du sacrifice, et puis il y avait la cuve des reins remplie d'eau, des sacrificateurs qui devaient donc quitter le parvis pour entrer dans le lieu saint, eh bien devaient se purifier. Et puis seulement on arrivait dans le lieu saint, où il y avait le chandelier avec la menorah et tout ça, le pain, la table avec le pain de proposition, et c'est seulement après qu'il y avait le Saint des Saints, le lieu très saint, qui n'était pas accessible à tout le monde, à tous les sacrificateurs, sauf à celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et il devait y entrer une fois l'an. Donc il ne pouvait pas y aller, ça lui prend comme ça, il dit, ah tiens, ah, vais dire à madame, je vais entrer un peu dans le Saint-Esprit. Tout cela était codifié, mes amis. C'était des règles strictes. Et quand il y entrait, évidemment, il avait tout un équipement sur lui, hein, des vêtements, des survêtements, et la robe qu'il mettait, il y avait des petites clochettes. Quand il s'est déplacé là-bas, les sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint entendaient le bruit et savaient qu'il était en vie. Quand il n'entendait plus rien, c'est que quelque chose de terrible venait de lui arriver. Dieu venait de le frapper. Donc, mes amis, on ne pouvait pas y entrer n'importe comment. Et donc, l'entrée dans le Saint des Saints, l'entrée du souverain sacrificateur dans le Saint des Saints, se faisait dans un isolement absolu. Alléluia. Entre dans ta chambre et ferme l'isolement absolu. Alléluia. Plus de contact avec l'environnement, alors même que nous sommes présents. Dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu, qui est notre Père, n'est-ce pas? Eh bien, contrairement aux sacrificateurs de l'ancienne alliance, nous avons le privilège d'y entrer à tout moment. Alléluia. Quel privilège, mes amis. Dans l'ancienne alliance, il fallait être issu de la tribu de Lévi et encore du clan d'Aaron. Voyez-vous, c'est seulement ceux-là qui étaient habilités à faire partie du sacerdoce ou de la sacrificature. On pouvait être fils d'Israël et ne pas être sacrificateur, n'est-ce pas? Et parmi les sacrificateurs, il y en a un, le souverain, qui seul pouvait y entrer. Mais la Bible nous dit que tout cela était l'ombre de choses à venir. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, voilà, tu vas me construire un tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Donc Dieu lui a montré, mes amis, le véritable tabernacle céleste. Dieu lui a montré son véritable palais céleste. Et il lui a dit, fais ceci comme cela t'a été révélé à la montagne. Donc, le tabernacle au désert, plus tard, le temple à Jérusalem, celui de Salomon, n'était que l'ombre, n'était que des images du véritable temple que Dieu allait bâtir sur terre. Et depuis la Pentecôte, depuis la descente du Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur est à l'œuvre. Tout celui qui reçoit Jésus devient le temple du Saint-Esprit, devient le temple du Dieu vivant. Je n'ai plus besoin d'aller à Jérusalem. Je n'ai plus besoin d'aller à Kamba. Je n'ai plus besoin d'aller à Fatima. Je n'ai plus besoin d'aller ailleurs. Où que je sois, Dieu est en moi. Où que je sois, je peux entrer dans le lieu secret. Gloire à Dieu. Quel privilège. Il est notre Père. Je comprends la réaction des prophètes qui ont vu ces choses au loin. Ils ont regardé, ils ont vu cette période de l'histoire où même des non-juifs, des non-hébreux accédaient auprès du trône de la grâce. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre de manière glorieuse. Ils ont vu des grandes choses. Ils ont essayé de comprendre, de sonder à quel moment ces choses arriveraient. Et le Saint-Esprit leur a dit non, c'est pour ceux qui viendront plus tard. C'est pour vous et moi. Acclamons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc fermer la porte parle de mettre en place une barrière qui m'isole du reste, comme le souverain sacrificateur qui entrait dans le Saint des Saints, dans un isolement absolu. Tout ce qui s'est passé au parvis, Il y avait du bruit au parvis parce que tout le temps les gens venaient pour offrir les offrandes sanglantes ou autres pour leurs péchés, pour telle bénédiction, donner leur dîme et tout ça. Ça s'est passé là. Et puis, il y avait le lieu saint. Mais lui, dans le saint des saints, n'avait que faire de tout ça. Tout ce qui comptait, c'était d'être là, devant le trône divin. Gloire à Dieu. Jésus reste notre modèle, mes amis. Regardons comment lui a vécu sa communion avec le Père. Les évangiles nous disent que Jésus s'est retiré loin du regard des hommes, n'est-ce pas? Y compris de ceux de ses proches. Voire même de ses disciples. Et tout cela pour vivre des moments de communion unique, singulière avec son Père. Nous voyons donc, mes amis, que fermer la porte signifie s'isoler. Alléluia. On s'isole. Tout en étant entouré par des gens. C'est un isolement. Et par rapport à l'isolement, deux choses et nous allons terminer par là. Deux types d'isolement. Voyez-vous, l'isolement se présente sous deux angles. Le premier isolement, c'est l'isolement extérieur, c'est-à-dire l'isolement physique. Regardez, vous avez quitté votre maison, n'est-ce pas? Pour certains, vous avez laissé la famille parce que la famille, bon, ne prie pas ou je ne sais quoi. Les jeunes dont les parents ne prient pas, vous avez quitté, non? Donc, vous êtes venu. C'est une sorte d'isolement, n'est-ce pas? Pour le moment, qui compte? Le Seigneur. Et donc, il y a cet isolement physique. À cet isolement physique, on peut se retirer. C'est ce qui explique même des moments de retraite. On s'isole. On peut s'isoler chez soi à la maison. Ou aller ailleurs, peu importe. Voilà, quelquefois on va ailleurs, mais on est là, on est tout le temps sur son smartphone. Hein. Voilà, ça ne sert à rien. Il lui fallut alors rester chez soi. Hein. Mais à cet isolement, c'est d'ailleurs la deuxième pensée par rapport à l'isolement extérieur, à cet isolement s'ajoute, et ce dans le contexte d'aujourd'hui, l'isolement numérique. Ah, l'isolement numérique. Mes amis, notre monde, ce monde moderne, se qualifie comme un monde de communication numérique. Et ces moyens de communication sont de plus en plus invasifs. Oui ou non? Eh oui, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Donc l'injonction du Seigneur, ferme ta porte, est donc à comprendre, non seulement dans le sens d'un isolement extérieur, physique. Voilà. Nous sommes ici, nous sommes isolés de nos voisins, oui ou non? Nous sommes isolés de nos familles pour certains. Et donc nous sommes venus, nous nous sommes retirés pour le Seigneur. Et gloire au Seigneur. Mais à cet isolement, il y a aussi l'isolement numérique, parce que vous pouvez être ici, mais vos yeux sont tout le temps sur le smartphone. Oh, alléluia, barabara, ta, 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 ta. Et puis, hop, une notification. Vous voyez? Eh bien, ferme ta porte doit être compris aussi comme une invitation à fermer toutes les portes, surtout numériques. Hein. Celle du téléphone. Le smartphone. Mon frère et ma soeur, apprends à le fermer quand tu viens. Sauf si vraiment il y a une urgence. Et même là, mets en mode. Et quand tu pries, même si tu entends une petite notification, laisse. Le Seigneur est capable de s'occuper du problème. Pendant que toi, tu es en train de le louer, de l'adorer. Ce n'est pas en allant regarder que tu vas résoudre le problème. Si tu apprends que ton fils est coincé quelque part, as-tu une recette miracle pour aller le chercher là où il est? Un seul peut le faire, celui que tu es venu rencontrer. Alors continue à l'adorer, continue à le louer. Il sait qu'il est coincé quelque part et il est capable de tendre sa main parce que tu es en train de le contempler, parce que tu es en train de l'adorer pour le décoincer. Fermez la porte, celle de la télévision. On veut prier, arrêtez tout. On veut prier, mais ça tourne. Novalas ou comment? Oui, Novelas. Ou Mangembo, comment ça? Le groupe théâtral de l'époque. Maboke. Voilà. Voilà. Maboke. Voilà. Tu laisses ça. J'ai des moments de prière, c'est très bien. Tu commences. Mais Maboke passe. Et il te sert un liboke, tu manges. Et quand tu commences à manger le liboke que le Maboke te sert, eh bien ça y est. Tu as maintenant le regard de Maboke à travers la télévision, tu n'as plus le regard de ton père. Ferme. La porte de la radio, la porte d'Internet, mais aussi la porte du brouhaha des villes, tous ces bruits qui nous entourent, les klaxons et tout ça, nous devons fermer. C'est pourquoi quelquefois on se retire. Mais je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus facile, mes amis, et ça c'est un drame. Je me permets de vous le dire. Beaucoup de gens ont des problèmes mentaux parce qu'ils ne se reposent plus assez. Vous savez que la santé mentale, on a tous besoin d'un équilibre mental. Quand on baigne dans un environnement marqué par le bruit, par toutes sortes de tintamarres, de bruits confus, des bars, des gandas, et même des nuits de prière qui n'en terminent jamais, Dieu a fait aussi la nuit pour dormir. Oui, exceptionnellement, on peut comprendre. Mais vous avez des problèmes d'insomnie, vous improvisez des nuits de prière, vous dérangez ceux qui n'ont pas ce problème. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Faites-le sans déranger les voisins. C'est comme ça que des nuits de prière partout, mais la condition morale de la ville laisse à désirer. Là même, on a fait la nuit de prière. Le matin, hop, on ouvre un ganda. On met les gens viennent voir. Comme si le Seigneur n'était pas passé par là. Nous devons fermer toutes ces portes. Nous avons besoin de silence. Vous comprenez pourquoi des fois je suis très dur avec vous. Vous comprenez pourquoi je n'accepte pas que lorsque je fais un appel, que vous vous mettiez à jouer. Non, vous avez aussi besoin d'entrer dans le Saint des Saints. Voyez. Car dès lors que vous mettez à jouer, même si ça vous enchante, vous êtes distrait. Voilà. Quand le souverain sacrificateur entrait là-bas, il n'amenait pas les maracas. Il entrait seul. On a besoin d'entendre sa voix. Car la prière est un dialogue. Mais nous en avons fait un monologue. Pendant une heure, on fait que parler. Et puis, amen, Seigneur, merci. Oui, tu as parlé. Mais ton Père a voulu te parler aussi. Mais il ne peut pas te parler dans un bruit, dans une atmosphère bruyante. Apprenons à apprécier le silence. Restez simplement calme. Mais dans nos églises, on a horreur de ça. Moi, je le vois. Ici, nous commençons à changer. Vous voyez? À chaque fois qu'il y a un vide, il faut qu'on joue la musique. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faut-il combler le vide par la musique? Pourquoi? Vous voyez que la musique aujourd'hui a pris des proportions, mes amis, inquiétantes. Et les gens lient désormais la louange et tout ça à la musique. Au point où certains ont des problèmes à entretenir une vie de prière chez eux parce qu'il n'y a pas la musique. Ou alors, il faut qu'il y ait un CD. Oh, CD, là, là. J'ai oublié ça. Là, là. Comment je vais louer? Eh bien, Dieu n'aime pas ça. Tu deviens esclave. Nous avons été affranchis. Nous avons été libérés de toute forme d'esclavage. Même ça. Mais non, que cela m'aide, c'est autre chose. Qu'il y ait un CD ou pas, ce n'est pas ça qui va me faire entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Oh Dieu, bon, alléluia. L'isolement intérieur, c'est ça. Vous fermez tout. C'est ça la barrière. Isolement absolu. Et là maintenant, seul à seul, avec ton Père. Faites l'expérience, vous allez voir combien c'est merveilleux. Vous allez voir que vous allez lui parler comme jamais vous ne lui avez parlé. Et vous allez avoir cette assurance qu'il est là devant vous. Voyez? Regardez, je pars, je reviens encore à l'autorité suprême. Imaginez-vous un peu que le président vous invite et qu'il vous reçoit avec tout le monde. Il y a 5 autres qui vous avaient déjà précédé. Vous avez des problèmes privés.
personnel.
Et puis quand vous entrez, le protocole vient vous chercher, vous trouvez papa Kabandasi.
Papa Mal également.
Et maman Angèle et tout le monde, et quelques personnes sont assis. Le président est là. Il dit, vous le faites entrer. Et puis ils sont là, il dit, maintenant, quel est votre problème?
Dites-moi. Dites-moi.
Ça sera très très difficile. Vous allez commencer à balbutier. Bon, ça veut dire, chef, comme vous voyez, c'était le bon, normalement, enfin pour être bref, mais vous n'avez encore rien dit. Comment être bref, vous n'avez encore rien dit. Normalement, vous commencez à utiliser tous les adverbes. Et en conséquence, du coup, mais parce que vous êtes gêné.
Oui ou non? Oui, il y a des moments où nous louons le Seigneur ensemble, qu'il est tout agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble et dans la maison de Dieu, de se réjouir en sa présence, mais qu'il est aussi important. À un moment où je me retrouve seul avec mon Père, là je peux lui dire les vérités, je peux étaler mon cœur, là je peux même me jeter à ses pieds, je peux rester là à ne rien dire, mais lui qui voit dans le secret de mon âme, eh bien, verra tout, comprendra tout. Même le silence lui parle.
Alléluia. Voilà donc, mes amis, les deux types d'isolement extérieur. Voilà comment nous pouvons fermer notre porte. Voilà comment tout lieu, partout où nous sommes, eh bien, peut devenir un tamélion, c'est-à-dire notre chambre, c'est-à-dire notre pièce retirée. C'est-à-dire un lieu, un endroit retiré où nous pouvons entrer et être en présence, nous isoler complètement et louer, adorer le Seigneur. Acclamons son nom. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et même là, entrons dans sa présence. Oublions qui est autour de nous, qui est devant nous, derrière nous, peu importe. Et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet enseignement combien important. Nous voulons que cet enseignement puisse transformer notre vie de prière, que cet enseignement puisse impacter les temps, les moments que nous sommes appelés à voir avec toi. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans notre chambre, à fermer la porte, à nous isoler physiquement, mais aussi à fermer toutes les portes numériques, télévision, radio, internet, pour être seul à seul avec toi. Oh, merci de nous aider à grandir dans ce domaine. Merci également de bénir, Seigneur, ce moment, les offrandes, les dîmes et de toute autre libéralité en rapport avec la construction du nouveau temple. Bénis, Seigneur, ces paniers des offrandes qui vont circuler. Au nom de Jésus. Amen.